Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Tous les 15 jours, les Écolonautes vous entraînent à la découverte d'une thématique liée à l'environnement. Et pour cette première, c'est le nerf de la guerre qui nous intéresse, l'énergie. Car sans énergie, pas de nourriture, pas de chauffage, pas de déplacement, pas de service de secours, pas de loisirs, ni de travail. L'énergie occupe une place de choix dans la transition écologique de notre société et nos modes de vie. Sans énergie, pas d'activité possible donc. D'ailleurs, le monde d'aujourd'hui est en très grande partie façonné par les énergies fossiles. Mais concrètement, qu'est-ce que l'énergie ? Que représente l'énergie dans notre quotidien ? À l'échelle d'un logement, d'une structure culturelle, d'une école ? Qui dit consommation d'énergie dit impact sur l'environnement. Changement climatique, exploitation de ressources naturelles dans une économie mondialisée. Le confinement d'une bonne partie de la planète a d'ailleurs mis l'accent sur la fragilité de nos sociétés face à un risque global, la pandémie. Qu'en sera-t-il avec le changement climatique largement conditionné par les questions énergétiques et dont les conséquences sont pourtant très bien documentées ? Quelle est la place de ce sujet dans la transition écologique ? Comment peut-on consommer moins d'énergie aujourd'hui ? Et quelles sont les conditions de réussite de ce défi pour chacune et chacun d'entre nous ? Julien Bourron est directeur pour la Loire-Atlantique de l'association Alizé, l'association ligérienne d'information et de sensibilisation à l'énergie et à l'environnement. Il est notre invité dans cette première des Écolonautes. Chiffres, données, mises au point, il pose le décor sur la place de l'énergie dans la transition écologique. C'est Alexandre, notre écolonaute, avec le premier ping-pong des voyageurs. Salut Alexandre.
Salut Lucie.
Quel est le lien entre les énergies fossiles et le changement climatique ?
C'est un lien de cause à effet. On se rend compte aujourd'hui que le réchauffement climatique, il est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est prouvé par le groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, le GIEC, qui, dans la conclusion de son cinquième rapport, a clairement établi ce lien de cause à effet. Après, dans ce même rapport, on va se rendre compte que les diverses sources d'émissions de gaz à effet de serre sont listées. Et la première, c'est les énergies fossiles, donc le charbon, le gaz naturel, le pétrole. Et c'est 3/4 des émissions mondiales. Et voilà, donc pour être complet, pour terminer, on peut citer les autres sources d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a le changement d'occupation des sols. Donc en gros, c'est quand on artificialise des terres agricoles, par exemple, ou encore d'autres procédés industriels qui viennent compléter le quart des autres émissions.
Et on en est où concrètement du réchauffement climatique ?
Alors on mesure déjà 1 degré supplémentaire à l'échelle de la planète.
Ça chauffe,
et c'est que le début, puisque ça c'est par rapport au début de l'ère industrielle. Donc on les voit tous, les conséquences concrètes, ça apparaît de plus en plus dans les actualités. Alors là je ne les détaille pas parce que je pense que ça méritera un sujet complet pour une autre émission des Écolonautes. Mais du coup, pour en revenir à la question, aujourd'hui, on observe une dynamique d'émissions de gaz à effet de serre très préoccupante.
Et ça se réchauffe, donc, et quand Trump dit « ça va se refroidir », bon, on a...
Mais on peut rire.
Et
sans trop de soucis, l'avenir lui donnera tort. Et donc, sur cette dynamique d'émissions de gaz à effet de serre très préoccupante, il faut savoir qu'aujourd'hui, on prend la direction du scénario dit pessimiste du GIEC, qui va nous conduire à un réchauffement climatique, ou qui pourrait nous conduire à un réchauffement supérieur de 5,5 degrés à horizon 2100. Si vous vous souvenez, l'accord de Paris, qui a été adopté lors de la COP21 en 2015, a quand même posé l'ambition de limiter ce réchauffement à 2 degrés, et même, il nous invitait en fait à poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 degré.
Et comment on fait pour ne pas être trop déprimé là, Alexandre ?
Eh bien, on va être dans l'action. Donc tout à l'heure, on aura un invité qui va nous parler de leviers concrets d'action. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même assez clair sur les efforts qu'il faudrait fournir. Et donc, on sait, par exemple, que pour atteindre ces objectifs de la COP21, il faudrait qu'on arrive à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et en fait, la neutralité carbone, c'est l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et l'absorption de carbone.
Et pourquoi on doit consommer moins d'énergie, donc ?
Si les énergies fossiles sont polluantes, il ne suffit pas de les remplacer par des énergies vertes. L'équation fonctionne si, collectivement et individuellement, on est capable d'agir sur 2 choses. Sur notre comportement, c'est-à-dire définir nos besoins essentiels en énergie et privilégier des actions et des activités sobres. Quelques exemples, réaliser des éco-gestes à la maison ou au bureau, comme éteindre la lumière, bien régler son chauffage, ou alors choisir des destinations de vacances qui ne nécessitent pas de prendre l'avion ou d'éviter d'être seul dans sa voiture. Donc ça, c'est très important, c'est le volet comportemental. Et le deuxième volet, c'est que quand on a un besoin énergétique et besoin d'une technologie, il faut utiliser celle qui est la moins consommatrice et on appelle ça l'efficacité énergétique. Toujours dans ces exemples, dans la lignée des exemples que je viens de donner, ça serait choisir une ampoule ou un système de chauffage performant. Et si je dois utiliser une voiture, parce que ça arrive, on n'a pas le choix, en prendre une qui minimise son impact. Donc, la bonne nouvelle, cette équation a été estimée possible plusieurs fois, sans rupture technologique, économique ou sociétale. Par contre, elle apporte son lot de changements, et changer, ce n'est pas facile.
Réaliser des éco-gestes à la maison, éteindre la lumière, bien régler son chauffage, choisir des destinations de vacances ne nécessitant pas de prendre l'avion, choisir une ampoule ou système de chauffage performant, ok, c'est bien, certes, mais est-ce qu'il y a des éco-gestes plus significatifs qui ont plus d'impact sur la préservation des ressources et la baisse des émissions de CO2 ?
Pour que ça soit clair, il y a éco-gestes et on va dire actions individuelles au sens large. Quand on dit éco-gestes, on pense aux actions du quotidien qui demandent peu ou pas d'efforts, comme ceux que j'ai cités en partie tout à l'heure. Et puis, il va aussi y avoir des actions du ressort des individus qui vont demander des changements plus ambitieux. Si je décide de devenir végétarien, si je décide de faire systématiquement du covoiturage par exemple, ça va me demander quand même plus d'efforts. Ça va être un vrai changement de comportement sur du long terme. Et puis encore des actions qui, elles, vont nécessiter des investissements. Isoler son logement, changer de véhicule. Où là, on est donc encore sur un autre niveau d'action. Donc Carbon 4, un bureau d'études, a fait le calcul dans une publication intitulée « Faire sa part ?» en interrogation. Toutes ces actions permettraient d'atteindre près de la moitié de l'objectif de la COP21.
Il faut que tout le monde soit mobilisé.
Oui, c'est ça, avec différents niveaux d'implication. Et puis, tout à l'heure, malicieusement, je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, Lucie, ce que tu me demandais, est-ce qu'il y avait un éco-geste qui était plus impactant que d'autres. Et donc, l'étude de Carbon 4, elle met en avant une action vraiment parmi d'autres. Je recommande la lecture de cette étude-là. Elle dit que le passage à un régime végétarien permettrait de diminuer son empreinte carbone de 10%.
Sensibilisation, éducation, accompagnement, conseil et formation, ce sont les objectifs et les actions de l'association Alizé créée en 1991. Réfléchir et s'approprier la question de la maîtrise de l'énergie, c'est l'axe central de l'association ligérienne d'information et de sensibilisation à l'énergie et à l'environnement. Notre invité, c'est Julien Bourron. Il est le directeur des programmes Loire-Atlantique de cette association. Bonjour.
Bonjour.
Face à l'urgence climatique, certains paniquent, sont paralysés par la peur, d'autres agissent, parfois c'est les deux à la fois. Comment faire face à cette situation qui paraît inextricable ? Certains se disent souvent à quoi bon en fait ?
Oui, alors forcément on est une goutte d'eau dans l'océan. Chacun peut se dire je peux agir dans mon coin, mais néanmoins si les autres n'agissent pas, il ne va pas se passer grand-chose, la fameuse maxime du colibri. On fait partie d'une société, on est dans un tout, et on ne pourra pas faire les transitions écologiques, environnementales, énergétiques, elles sont multiples, sans une révision profonde de notre modèle de société. C'est ce qu'on va appeler plus largement les modes de vie. C'est comment on habite un territoire, comment on vit, comment on se déplace. C'est tous ces éléments-là du quotidien qui sont questionnés. Et on va voir que c'est quand même c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Ce n'est pas juste changer quelques habitudes.
Sur ce sujet-là, quelles sont, selon vous, les conditions de réussite de la transition énergétique qui se pose à l'ensemble des citoyens du monde ?
Selon nous, notre expérience, c'est à la fois travail depuis 1991 sur les territoires, également en lien avec les collectivités, dans des programmes de recherche-action. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la transition, elle sera locale ou elle ne sera pas. C'est auprès des territoires, sur des dynamiques avec les habitants, avec les citoyens, avec les collectivités, avec les entreprises. Tout le monde doit avancer dans le même sens. Et l'échelle où on voit que les évolutions sont les plus profondes et les plus rapides, c'est une échelle, on va dire, territoriale. Alors, ça veut dire beaucoup et pas grand-chose, mais disons échelle bassin de vie. C'est-à-dire, nous, si nous sommes Nantais, c'est la région nantaise, on va dire. Et ce travail-là, cette échelle-là, c'est pour moi vraiment, pas que pour moi d'ailleurs, mais pour un certain nombre d'entre nous, c'est vraiment une première clé de réussite. Après, le deuxième élément, c'est une approche un peu, un mot valise qu'on entend beaucoup, c'est une approche dite systémique. On ne va pas aller travailler chaque petit élément l'un à côté de l'autre, on va penser le tout, on va penser la logique sociétale. Il y a beaucoup d'axes, finalement, de travail dans lesquels s'engager. Pour donner un exemple, alors un peu caricatural, mais que j'aime bien donner souvent, c'est que demain, si vous voulez faire évoluer profondément vos déplacements et vous dites, tiens, j'aimerais me déplacer à cheval. pourquoi pas ? C'est un déplacement très écologique.
C'est ce que préconise Yves Cochet d'ici 10 ans.
Exactement.
Alors, ancien ministre de l'écologie.
Exactement. Alors, au-delà du fait de posséder un cheval et d'avoir les infrastructures pour un cheval, demain, vous ne pouvez pas vous balader à cheval dans la ville de Nantes.
Oui, ça serait compliqué. Ouais.
Ce serait compliqué. Donc, du coup, c'est pas que.
On va faire le test. Hein, mais...
du coup, ce n'est pas qu'une volonté individuelle. Il y a aussi tout un ensemble de paramètres, des infrastructures. Également des institutions, de savoir si les collectivités, les entreprises, les organisations syndicales, etc., c'est leur cheval de bataille ou pas, pour faire un mauvais jeu de mots. Et puis aussi, techniquement, en fait, est-ce que c'est souhaitable dans les rues d'avoir une traction animale ? Enfin, quand vous appliquez ça à chaque évolution possible ou souhaitable, vous rendez compte que les freins ne sont pas uniquement de la volonté des citoyens des uns des autres. Et ce n'est pas non plus qu'une question d'évolution technologique, ce n'est pas non plus qu'une question de pouvoir public. C'est systémique, c'est global, et ça doit être approché par tout le monde en même temps.
C'est systémique, c'est global, mais c'est local aussi. Alors comment bouger en local quand on voit que le reste de la France, le reste de l'Europe, du monde même, peut parfois ne pas aller sur le bon chemin ?
Par l'expérimentation. On connaît de l'histoire humaine deux façons de changer nos modes de vie radicalement. La première, c'est une guerre. La deuxième, c'est une révolution. Dans les deux cas, c'est problématique pour plein de raisons. Les transitions dites douces, on ne sait pas, aujourd'hui, on n'a pas une histoire qui nous montre qu'on a pu les faire à grande échelle. C'est l'expérimentation, je pense, locale, qui permet justement de montrer que ça fonctionne et de faire doucement évoluer les pratiques. Mais il faut commencer à une échelle locale. Donc, c'est là où ça doit être global, on va dire, dans la vision de la société, mais ça ne peut pas être global en termes d'échelle d'application. Si on attend de l'État...
Concrètement, ça ne peut pas être global, il faut que ça soit local.
Il faut que ce soit local, évidemment, mais il faut que ce soit... Alors, le sens global, ce n'est pas forcément dans sa fonction géographique, il faut que ce soit global au sens systémique. Il faut qu'on pense à tous les axes, justement, d'implication que ça a.
En local,
même aux échelles plus largement. On a tendance dans des milieux militants, associatifs, à caricaturer d'un côté les gentils militants qui pensent la transition énergétique et de l'autre les méchantes entreprises qui ne pensent qu'à amasser de l'argent. Vous ne pourrez pas faire la transition sans les entreprises. Donc si vous ne commencez pas déjà à faire du dialogue et à travailler avec les entreprises, les transitions, elles vont vraiment attendre. Il faut travailler avec tout le monde. C'est ça qui est compliqué, c'est de réussir à avoir ce projet commun. Le local, il a justement cet intérêt qu'on peut trouver des points de convergence, des intérêts communs qui vont être plus facilement appréciables et plus facilement être mis en œuvre.
Donc ce qui est assez intéressant, c'est que là, c'est notre première émission et qu'on a envie d'explorer toute cette complexité à travers les nombreuses émissions qu'on aura des écolonautes. On entend bien l'approche systémique, on entend bien le côté local. Si vous voulez bien, Monsieur Bourron, on aimerait revenir un petit peu plus sur ce que les personnes peuvent faire aussi, qui peuvent peut-être permettre à la mise en place d'expérimentations. Et on va revenir avec une question très concrète. Qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place dans sa vie de tous les jours, vu qu'Alizé a quand même cette expertise et ses savoir-faire en mobilisation sur des éco-gestes, mais pas seulement.
Nous, notre travail, c'est d'offrir de l'accompagnement, de la sensibilisation, des conseils aux particuliers, et puis ensuite aussi à des publics dits spécifiques, à des scolaires, à des publics en situation de précarité énergétique. Ces accompagnements-là, ils sont souvent de deux natures. Il y a une nature un peu plus sociale. Comment je fais mettre en action des personnes ? Il ne suffit pas de dire ce qu'il faut faire pour que ce soit fait. Je pense qu'on n'est pas loin des 100% des fumeurs qui savent que fumer est dangereux pour la santé. Mais pour autant, ils fument. Cette manière, justement, d'approcher les choses et comment, finalement, on donne envie de rentrer là-dedans. Donc, nous, on travaille sur des questions, sur des défis, par exemple, sur des manières ludiques, en fait, d'approcher les questions de transition. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Si ça devient une contrainte, ça ne va pas marcher. Et puis, on a de l'apport plus technique. Donc, de savoir, demain, si vous dites, finalement, est-ce que c'est plus écologique d'avoir un lave-vaisselle ou de faire la vaisselle à la main ? Je me questionne, je ne sais pas. Et donc, pour le coup, ma pratique, je ne sais pas comment la faire évoluer. Donc, nous, on va amener aussi ces éléments-là avec des éléments de compréhension. Notre cœur de savoir, c'est aussi de vulgariser. C'est d'être capable, justement, de donner de l'information calibrée pour notre interlocuteur. Des ingénieurs nous appellent et ont un niveau technique très élevé sur l'énergie et pour avoir du conseil. Et puis, on peut aussi avoir une petite mamie de 80 ans qui ne sait pas trop quoi faire avec son logement ou son chauffage. Et donc, pour le coup, nous, on s'adapte en fonction de notre public.
L'idée, c'est aussi de toucher tous les publics, parce que prêcher des convaincus, c'est bien. Essayer de toucher tout le monde, c'est mieux, peut-être.
Essayer de toucher tout le monde, c'est évidemment mieux. Après, forcément, dans une démarche de sensibilisation, d'accompagnement, d'abord travailler avec ceux qui veulent travailler avec nous. C'est-à-dire que on n'a pas forcément aujourd'hui une capacité à embarquer très largement tout le monde. Peu savent le faire de toute façon, et puis c'est souvent des moyens très 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 conséquents qu'on n'a pas. Donc on va d'abord commencer avec ceux qui veulent faire. Et c'est déjà bien parce que on se rend compte aussi que quand on n'a pas forcément les réponses à nos questions, quand on n'a pas un axe finalement de travail sur lequel s'engager, bah, des fois on perd patience, on en a marre et on ne le fait pas alors qu'on avait envie de faire en premier lieu. Donc déjà, si on arrive à embarquer tout cela, c'est déjà énorme. Après, évidemment, il faut aller travailler aussi et surtout avec ceux qui ne font pas aujourd'hui, mais ceux-là n'ont pas forcément vocation à avoir du conseil technique. Il faut déjà qu'ils aient la motivation. C'est d'autres leviers, c'est d'autres ressources, c'est une autre façon de travailler.
Parfois, il est difficile de faire comprendre à quelqu'un qu'éteindre les lumières ou prendre une douche de moins de 5 minutes peut avoir un réel impact sur la consommation d'énergie globale. Et donc, au changement climatique, on va souvent se heurter à des réponses telles que « c'est pas en débranchant ma box ou en arrêtant de prendre des bains que je vais sauver la planète ». Ces conseils, on les retrouve sur le site alizé.org. C'est vrai que ça fait pas tout, ces éco-gestes. Est-ce que ça compte selon vous, Julien Bourron ? À quel point ça compte ?
Oui. Ça compte, et ça compte fortement à partir du moment où on en fait la somme. Évidemment, nous sommes individuellement responsables de nos actes, pas de ceux des autres. Pour le coup, on va dire, il faut s'inscrire dans une dynamique collective pour que ça fasse sens. C'est pour ça que les leviers, finalement, des transitions, ils sont multiples, ils sont individuels, ils sont collectifs. Et finalement, c'est la somme de tout ça qui permet la mise en transition. Évidemment, l'intérêt individuel derrière ça, il est que si quelqu'un, dans ses gestes quotidiens, le fait d'aller vers des transitions devient une contrainte avant d'être une envie, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut avoir une vision presque politique, hein, finalement, de la société pour avoir envie d'adapter ça au quotidien. Nous, on n'a pas forcément vocation à répondre à tout ça. C'est toujours un peu compliqué de se positionner là-dessus. Par contre, on est encore un coup capable de pouvoir répondre aux questions que les uns et les autres se posent pour se mettre en transition. C'est pas nous qui allons changer le monde. Et finalement, nous, à l'ISE, on se considère un peu comme tous les citoyens dont vous parlez. Bah, on fait notre part, tout simplement.
J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur l'aspect collectif, sur l'aspect différente mobilisation des publics. Est-ce que d'après vous, il y a quelque chose qui est central pour donner envie d'agir ? Est-ce qu'il y a des formes de mobilisation qui sont plus efficaces ? Vous avez dit hein, le collectif, vous avez parlé du défi, mais sans pouvoir encore mieux l'expliciter. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, peut-être ?
Pour moi, il y a deux natures de leviers. Il y a des leviers conscients, c'est-à-dire que si on attire les personnes vers les transitions uniquement sur de l'intérêt collectif environnemental, ça ne va pas non plus fonctionner. Nous, on sait que sur nos défis, les personnes vont y gagner aussi un intérêt financier, vont y gagner en confort. Donc ça, c'est des leviers, on en est conscient et on sait qu'on peut gagner quelque chose. Et il y a des leviers assez inconscients. Nous sommes des animaux sociaux et on répond à des normes sociales, à des codes de fonctionnement. Je prends un exemple qui est souvent cité, c'est les nudges, ces fameux petits coups de pouce où on va, sur un principe réfléchi, avec un objet assez anodin, un autocollant, etc., provoquer chez quasiment toute la population, on va dire, le même réflexe. C'est des astuces ou c'est des, on va dire, des manipulations, entre guillemets, qui permettent de mettre en bonne condition des personnes pour passer à l'acte. Donc là aussi, c'est inspiré des sciences sociales. Il y a tout un travail qui est beaucoup développé là-dessus. Derrière, ça prend beaucoup de formes. Ça prend des formes ludiques, comme les défis. Ça peut prendre des formes expérimentales avec des actions dans les écoles. Ça peut prendre pas mal de formes différentes. Et il reste encore tellement de choses à inventer.
Vous nous avez parlé des défis, notamment des défis Famille Zéro Déchet. Il y en a qui arrivent là prochainement ?
La nouvelle saison des défis sur Nantes Métropole démarre d'ici la fin de l'année. Donc le lancement a lieu au mois de décembre. Et donc il y a trois défis qui sont proposés aux habitants. Un défi sur la réduction des consommations d'énergie et d'eau. Un défi sur les consommations de déchets, enfin sur la production pardon, de déchets. Et un défi également sur l'alimentation durable.
Julien Bourron, directeur des programmes de l'association Alizé, était notre invité dans ce premier épisode des Écolonautes. Pour en savoir plus sur votre consommation énergétique et pour participer au défi Famille à énergie positive, Surveillez l'actu de l'association Alizée ou de Nantes Métropole afin d'en savoir plus sur ces défis, les délais et les modalités d'inscription. Lorsque l'on a une intention d'agir, la participation au défi Famille à énergie positive permet de se raccrocher à du concret et d'être plus efficace dans sa transition énergétique. Et ce type de dynamique ludique et instructive peut aider à changer son comportement, notamment en ce qui concerne la consommation énergétique. Quant aux espaces Info Énergie de Nantes et de Saint-Nazaire, ils sont gérés par l'association Alizée. Les EIE, les espaces Info Énergie, vous permettent en tant que particulier de bénéficier de conseils gratuits dans la rénovation, la construction et l'isolation de votre logement notamment. Les écolonautes reviennent pour vous éclairer sur la transition énergétique pour un second épisode dédié cette fois aux énergies renouvelables. C'est sur Prune, dans Curiosité, le mercredi à partir de 17h et c'est dans deux semaines.